Donc, je reprends pour mon frère. Oui, donc Toby et Dominique, dans leur témoignage, ont parlé de fortifier, d'encourager lorsqu'il y a des épreuves. Et un synonyme de ce terme, c'est la persévérance. Et je disais que plusieurs personnages de la Bible, Josué, Caleb, Saul, Daniel, Étienne, etc., ont persévéré dans le bien, sur la bonne ligne. Par contre, vous avez Balaam, Jézabel, Akab, qui eux ont persévéré, mais dans la mauvaise ligne. Ils se sont perdus. Et il y a beaucoup d'autres personnages bibliques que nous pourrions citer, qui ont même le même trait de caractère, c'est-à-dire la persévérance. Et la Bible nous exhorte aussi à la persévérance au sein de l'épreuve. Et puis, même dans l'Apocalypse, au chapitre 2, le Seigneur parle et il dit, je sais que tu ne peux supporter le méchant. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu as été trouvé menteur. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Voilà ce que l'Éternel dit à l'église d'Éphèse. Donc, la persévérance nous permet de glorifier Dieu, de marcher avec Dieu, et nous, dans l'église, nous glorifions Dieu à cause de notre persévérance, de notre foi. Parce que s'il n'y a pas la foi, on se retrouve comme Balaam et Jézabel, ainsi qu'Akab. Donc au milieu de toutes nos persécutions, le roi Darius appelle Daniel quand il est dans la fosse. Il lui dit, est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance t'a sauvé de la gueule du lion? On connaît l'histoire, hein? Et on sait que Daniel et ses compagnons sont restés sur la bonne voie, sur la voix de Dieu. La recommandation que je t'adresse, c'est que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne confiance. C'est Paul qui écrit à Timothée qui lui dit ça. Persévérer dans la foi et avoir une bonne conscience. Alors pourquoi persévérer? Donc pour atteindre l'objectif que l'on s'est fixé ou que Dieu nous a fixé, que Dieu nous propose. En Hébreux 12, 2, il est dit: Rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Donc, persévérer, mais pas persévérer n'importe comment, en ayant les regards sur Jésus. Un exemple, c'est Moïse qui a conduit le peuple jusqu'à la frontière du pays promis, jusqu'à Canaan. Malgré la désobéissance et l'opposition du peuple, si vous connaissez l'histoire, vous vous souvenez toutes les épreuves que Moïse a subies de par l'opposition, même de Marie, même de son frère. Rappelons les peu d'épreuves, mais les épisodes du veau d'or en Exode 32, verset 4, les serpents brûlants, où là le peuple avait désobéi et pour être sauvé, Moïse a dû faire un serpent monter sur une perche et il fallait regarder le serpent pour être sauvé. Pourtant, il a persévéré et a mené sa mission à son terme, sachant que Dieu lui disait: Tu ne passeras pas ce Jourdain. Dieu le fait monter au sommet du mont Nebo pour qu'il voie le pays de Canaan, en Nombre 32, verset 49. Pour Moïse, ça a dû être un déchirement. Avoir la promesse de posséder ce pays, d'aller dans le pays, Dieu lui montre, regarde le pays, mais tu n'iras pas. Ça devait être un déchirement pour Moïse. Bon, Moïse le dit dans les chapitres précédents, je suis vieux. Hein, il avait 120 ans, je suis vieux, et il a demandé à Josué de prendre la relève. Enfin, c'est Dieu qui demande par l'intermédiaire de Moïse que Josué prenne la relève. Le but qui nous est proposé par Dieu est d'atteindre la perfection. Je pense qu'on ne l'atteindra pas sur cette terre. On l'atteindra quand nous serons au ciel. Et d'atteindre la perfection. Quand l'apôtre Paul dit aux Philippiens « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » La course est une image réelle qui nous montre quelles sont les conditions nécessaires, voire obligatoires, pour remporter la victoire. Quel que soit le sport que les gens pratiquent ou que vous pratiquez, pour atteindre un résultat, pour atteindre le but, il y a un entraînement. Et si vous regardez certains reportages, certains athlètes disent « moi je m'entraîne 35 heures par semaine ». Bon, c'était un athlète comme ça, mais il y en a d'autres qui s'entraînent certainement plus longtemps pour atteindre le but. Donc il s'impose une discipline exigeante dans l'entraînement physique, dans la nourriture, le mental, pour obtenir une hypothétique couronne, un hypothétique résultat éphémère, car il faudra persévérer pour rester au plus haut niveau. Certains passent beaucoup d'heures pour atteindre ce but. Le prix de la vocation céleste, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, les versets 25 et 27, il prend l'image d'un sportif. Tous ceux qui combattent le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme battant l'air, je cours non pas à l'aventure, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Paul n'a pas peur de perdre son salut. Ce chapitre 9, Paul parle de son ministère et pas de son salut. Le salut est toujours gratuit. La seule condition est d'accepter l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ qui paye à Dieu le prix de nos péchés à notre place. Par contre, que faisons-nous de notre salut qui est le fondement de notre vie? Notre salut doit entraîner une vie de service, ce qui me fait penser à l'image employée par Paul au sujet des matériaux de construction. Vous savez, quand il prend l'image, celui qui construit sur le fondement c'est Jésus-Christ, le fondement de notre vie, c'est Christ. Après, on bâtit dessus. Alors, dans ce qu'il cite avec la maison, hein, on peut bâtir avec du chaume, du foin, de la paille, ou alors avec du fer, de l'or, etc. Et il dit aussi que tous ces matériaux, c'est-à-dire les constructions de cette maison représente notre vie, tous ces matériaux vont être éprouvés par le feu. Et celui qui construit avec du chaume, de la paille et du foin, après le feu, eh bien, il ne restera plus rien. Il ne restera que l'or et le fer pour ceux qui ont construit avec des matériaux solides, qui est notre action dans notre vie de chrétien. Alors, lorsque on épurait notre vie comme on épure un minerai, vous savez que ça soit l'or, le plomb, le cuivre, ce que vous voulez comme métal, pour sortir, quand on prend le minerai, dans ce minerai, il y a plein de saleté. Il y a de la terre, il y a de la gangue, il y a toutes sortes de produits qu'on ne veut pas. On veut que le produit qui nous intéresse, ça peut être le fer, l'or, etc. Et pour épurer, qu'est-ce qu'on fait? On passe ce minerai dans un four énorme. Et dans ce four, on monte pour le fer jusqu'à 1600 degrés. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le fer devient liquide et toute la gangue, les scories, restent au-dessus et le fer pur reste en bas. Et il y a deux évacuations possibles dans le four, une supérieure. Dans celle qui est supérieure, on évacue les scories, la saleté, et dans celle qui est inférieure, on récupère le fer. Donc l'image du feu que pour la maison, c'est la même chose quand on veut épurer notre vie. On doit passer par des difficultés et on doit reconnaître quelle est l'œuvre, notre œuvre pour Dieu, pour notre vie. Mais j'insiste encore sur le fait que le salut est gratuit. Le salut ne nous demande pas de payer quelque chose, de faire quelque chose. Simplement, il dépend de notre acceptation ou de notre refus de l'œuvre de Jésus à la croix. Et puis, on peut vérifier, parce que vous avez certaines personnes, les témoins de Jéhovah, pour ne pas les citer, qui passent en vous disant c'est par les œuvres. Alors, un verset de référence, c'est Éphésiens 2.8. Alors, vous pouvez vérifier avec Éphésiens 2.8 qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais sauvé par la foi. C'est un verset important. Il y en a d'autres, mais en particulier celui-là. Et puis, chacun de nous recevra une récompense qui sera fonction de la manière dont on construit sa vie, des œuvres qu'on aura accomplies. Un exemple de récompense dans la parole qui m'est venue, c'est la parabole des 10 mines qu'on peut lire dans Luc, les chapitres 19, les versets 12 à 27. On la retrouve aussi dans Matthieu 25, exprimée d'une autre manière, les versets 14 et 30. Dans cette parabole, Jésus prend 10 personnes. Enfin, je dis Jésus, c'est pas dit comme ça. Hein. Un homme d'une haute lignée qui est riche prend 10 personnes. Mais cet homme, c'est l'image de Jésus. Il prend 10 personnes et à chacun, il offre une mine. Et il s'en va pour être. Pour être nommé roi de son pays. Et puis, il confie donc ses biens à ses 10 serviteurs. Il donne à chacun une mine, leur disant « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Quelque temps plus tard, à son retour, il voit le premier à qui il avait donné une mine, et ce premier lui dit « Ben voilà, tu m'as donné une mine, moi je t'en redonne 10. » C'est-à-dire qu'il a décuplé la valeur de la mine. Il arrive à le deuxième, il demande au deuxième. Le deuxième, il lui avait donné une mine aussi. Et puis le deuxième, il dit, voilà, tu m'avais donné une mine, moi je t'en redonne 5. Donc il a fait fructifier, quintupler sa mine. Et puis le dernier, il arrive, il dit, ben voilà... Tu m'as donné une mine, je sais que tu es un serviteur, un maître exigeant, difficile, et je te redonne ta mine. Je l'ai caché et je te redonne ta mine. Mais à chaque fois, Dieu a dit quelque chose pour récompenser. C'est-à-dire le premier qui a donné 10 mines, qui a décuplé sa mine, qu'est-ce qu'il lui dit ? Bon et fidèle serviteur, puisque tu as été fidèle et que tu as fait progresser ma mine, je te donne en récompense le gouvernement de 10 villes. C'est une image qui va se passer dans l'éternité. Hein. Et puis le deuxième, avec ces 5 mines qu'il a récoltées, qu'il a données à son maître, le maître lui dit, c'est Jésus, à chaque fois, c'est l'image de Jésus, lui dit, « Puisque tu as été bon et fidèle, je te donne le gouvernement de 5 villes. » C'est une récompense aussi. Et puis le dernier, Jésus dit, « Écoute, le personnage lui dit, un autre lui dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, que tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi répond, puisque tu savais, le roi, entre guillemets, Jésus, hein. Le roi répond, puisque tu savais cela, pourquoi n'as-tu pas placé mon argent à la banque, pour qu'à mon retour, je le retire avec intérêt. Cette parole semble suggérer que l'on peut, à défaut d'investir nous-mêmes pour la cause du Seigneur, confier à un autre qui sera capable de le faire. Souvent, quand on travaille, on a des dons, chacun a ses dons, et on ne peut pas faire certaines choses, parce qu'on n'a pas la forme physique, on n'est pas bien, on n'a pas les moyens, mais on a des pensées, des choses comme ça, et on peut confier des idées, on peut confier de ce que l'on ne peut pas faire à une autre personne. Et ça, on sera reconnu. Hein. Le serviteur coupable essaie de justifier sa paresse en accusant son maître de dureté. Le roi lui ôte la mine pour la donner à celui qui en avait 10. Alors ça peut paraître choquant. Hein. Ça peut paraître choquant. Si nous ne profitons pas des occasions qui nous sont données au service du Seigneur, il les reprendra pour les donner à d'autres. C'est-à-dire que si Dieu nous met des projets pour lui devant nous et que nous ne profitons pas de les faire, si nous laissons tomber, ben ces projets, il va les confier à d'autres. C'est la mine qui donne à celui qui en a 10, même si c'est au départ, si on ne réfléchit pas, si au départ on se dit « mais c'est pas juste, il en a déjà 10, on lui en donne encore une ». Mais l'interprétation c'est on a des dons et si on ne les utilise pas, eh bien il va donner ses dons à d'autres et on peut les perdre à jamais, ne pas les retrouver. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu veillera à ce que nous ne manquons, qui n'ont pas du nécessaire pour un meilleur service. Peut-être trouvons-nous injuste que la mine soit accordée à celui qui en avait déjà 10. Mais c'est là un principe constant dans la vie spirituelle. À ceux qui l'aiment et le servent avec zèle, le Seigneur accorde de nouvelles possibilités de service. Par contre, celui qui n'exploite pas ses chances de servir risque de les perdre à tout jamais. Ce troisième serviteur perd sa récompense, mais aucune autre sanction n'est mentionnée. Vous pouvez lire cette parabole, il n'y a pas d'autre sanction qui est mentionnée. Son salut n'est pas remis en cause. Ce jugement aura lieu au ciel après l'enlèvement. Cette parabole nous montre que notre salut ne doit pas être un oreiller de paresse. Ça me fait penser à un campeur que nous avions. Je souris avec Ghislaine parce qu'il nous avait dit ça, un jeune de Belfort. Et il nous avait dit, c'est pas la peine que je fasse la vaisselle, je suis sauvé par grâce, c'est gratuit, donc j'ai rien à faire. Voilà, c'est un campeur qui nous a dit ça. Maintenant, je crois qu'il est pasteur du côté de Besançon. Donc Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. La vie chrétienne est un combat permanent qui exige de persévérer dans la voie que le Seigneur nous trace. En Hébreux 10, les versets 35 et 36, il a dit « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. » Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Nous devons persévérer, ce qui demande des efforts, et pas d'inconstance, de laisser aller face aux difficultés qui nous arrivent. C'est-à-dire, il ne faut pas baisser les bras, on laisse tout aller, on verra bien. Il y en a un qui m'a dit récemment, je t'ai dit, une locution latine, ça me revient. Hein? Ça me reviendra peut-être plus tard. Ça veut dire je vis au jour le jour. Mais c'est quelqu'un qui. Comment tu dis? Voilà, carpe diem. Merci, Toby. Ouais, carpe diem. Et c'était lors d'un repas, il m'a dit ça. Et puis en plus, il s'appelle Jérémy. Et un peu, si on fait les rapprochements, je vis au jour le jour. Voilà. Donc, nous devons persévérer, ce qui demande des efforts et pas d'inconstance et pas de laisser aller face aux difficultés qui nous arrivent. Ce sont des épreuves qui fortifient notre foi. Jacques 1, versets 12 et 14, c'est ce que Dominique et Toby ont dit tout à l'heure. Certains considèrent deux types d'épreuves, les saintes épreuves et les épreuves de notre vie, des épreuves pour nous, d'autres épreuves. Donc, je reprends, les saintes épreuves, ce sont les épreuves que Dieu nous envoie ou nous permet d'avoir pour fortifier notre foi, pour nous encourager. Et puis, il y a d'autres épreuves que... Je retrouve ma page. Page blanche. Et des tentations impures provoquées par notre propre convoitise. C'est-à-dire que notre convoitise peut nous entraîner dans des épreuves qui ne sont pas saines. Le psaume 66, verset 10 dit « car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. En effet, pour purifier le minerai, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Cette image que le psalmiste utilise explique bien la séparation nécessaire qui doit exister entre notre vie et le monde. Comme dit le Seigneur, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais les préserver du mal, car ils ne sont pas du monde, en parlant de nous. Nous avons beaucoup d'exemples dans la parole où la persévérance a été récompensée. Dans l'Ancien Testament, la reconstruction de la muraille de Jérusalem avec Néhémie, le peuple qui travaillait avec une arme à la main. Vous savez, quand le roi, je crois que c'est Cyrus, lui dit d'aller reconstruire les murailles de Jérusalem, il y a eu énormément d'opposition de la part des peuples environnants et ils étaient attaqués sans arrêt. Et les ouvriers travaillaient avec les instruments, la truelle. Je dis la truelle, c'était peut-être pas une truelle à l'époque, c'était peut-être autre chose. Et puis de l'autre main, ils avaient à portée de la main une arme pour se défendre. Vous voyez un peu la persévérance qu'ils avaient. Daniel et ses compagnons, l'un dans la fosse au lion, ses compagnons dans la fournaise, ils ont persévéré et n'ont pas renié Dieu. Daniel, ses compagnons, vous connaissez certainement l'histoire, Daniel, lui, s'est retrouvé parce qu'il ne voulait pas adorer la statue de Nebuchadnezzar. Daniel a persévéré dans sa chambre, tourné vers Jérusalem. Il priait son Dieu, notre Dieu. Et il a été espionné, des gens l'ont dénoncé. Et le roi, pour sa punition, parce qu'il l'avait promis, ceux qui n'adoreront pas la statue seront jetés dans la fosse aux lions. Donc il a été jeté dans la fosse aux lions. Mais l'Éternel l'a gardé, et du coup le roi y va, je crois que j'ai cité tout à l'heure, il lui dit, Daniel, est-ce que ton roi, ton Dieu que tu sers, avec persévérance, t'a-t-il sauvé? Et en effet, Daniel a été préservé. Ses compagnons dans la fournaise, parce que les compagnons, de la même façon, suivaient Dieu, mangeaient pas les menus du roi, parce qu'ils disaient que Dieu va nous aider, va nous donner des bons menus. Donc ça n'a pas été tout seul, et ils n'ont pas voulu non plus adorer le roi, sa statue aussi. Et le roi dit, on les met dans la fournaise. Et puis, ils ont chauffé la fournaise 10 fois plus que normalement, et ils ont mis les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a dit, mais on a bien... Alors, en jetant les compagnons Daniel dans la fournaise, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui ont jeté, par la puissance du feu, ils ont été tués sur le coup. Par contre, les compagnons de Daniel, Abdias, je ne sais plus les prénoms, Daniel... Donc, eux, ils marchaient dans la fournaise, et le roi, il dit, mais on a mis 3 personnes dans la fournaise, et puis j'en vois 4. Le quatrième, c'était probablement Jésus. Pas un, quand ils sont sortis, pas un de leurs cheveux n'a été brûlé. Et là, on voit encore la puissance de Dieu. Par contre, beaucoup d'apôtres, de témoins, n'ont pas renié leur foi, ont persévéré devant la torture, comme Étienne, Paul, Pierre. On sait leur fin, ils ont témoigné toute leur vie, ils ont persévéré, mais on sait qu'ils ont été martyrisés à la fin, crucifiés, etc. Hein, l'apôtre Pierre a voulu être crucifié, non pas la tête en haut, comme Jésus, pour ne pas être comme Jésus, mais la tête en bas. Enfin, c'est ce que l'histoire nous rapporte. Et puis, Matthieu, en chapitre 10, verset 28, nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. » C'est Satan qui peut nous faire périr dans la gêne. C'est pour ça, une réflexion que nous avons eue, tous ceux qui sont martyrisés en Afrique, en Afghanistan, dans tous les pays, tous les martyrs, ils souffrent comme les apôtres ont souffert parce qu'ils sont martyrisés, mais une fois, quand ils perdent la vie, quand ils sont morts, on ne peut plus rien faire, ils sont vers le Seigneur. Et ça, c'est une joie pour eux, entre guillemets, mais c'est pour ceux qui restent. quand on voit tous ceux qui sont martyrisés, qui restent, et tant que la mort n'est pas arrivée, on ne peut pas faire autre chose sur terre que de tuer quelqu'un. On ne peut pas aller au-delà. Par contre, leur âme ne peut pas être tuée. Il n'y a que Satan qui peut avilir les âmes et qui peut faire renier aux hommes Jésus-Christ, le sacrifice à la croix. Donc, pour conclure, nous obtenons le salut gracieusement par Jésus-Christ, notre Sauveur. En reconnaissance, nous sommes engagés à persévérer dans le service avec les dons, les qualités dont il nous a équipés. Amen.